Le Fesneau.
Mais qu'est-ce que c'est ?
Le Festival de l'Excellence Normande.
Les musiques actuelles s'invitent au Fesneau, au Parc des Expositions de Rouen. Radar, la radio Art en Sort et HDR s'associent pour faire le point sur la promotion des artistes de notre région. 7 acoustiques, interviews, organisateurs de concerts, de festivals, promoteurs, studios, comment fonctionne la machine des musiques actuelles de la région et qui la fait tourner. HDR et Radar sont au Fesneau.
Nous sommes au Fesneau, nous sommes en compagnie de Pierre de Reder dans le studio mobile Art en Sort, en compagnie de HDR et de Nicolas. HDR sur le 99.1 sur le bassin rouennais et sur Radar, radar.arensort.com pour nous écouter. Nous sommes en direct ou en semi-direct ou en condition de direct pour, selon les auditeurs, au Parc Expo de Rouen. Pour le Fesneau, le festival de l'excellence normande, sommes-nous excellents ? Je ne sais pas, on essaye de briller en tout cas.
En tout cas, on est phénoménal.
Ah oui, on est phénoménaux. On reçoit donc Pierre de Reder pour Tour de Chauffe. On a eu des petites interventions comme ça. On va essayer de recoller les wagons pour pas faire trop de redites non plus. Mais voilà, redéfinir très rapidement ce que c'est Tour de Chauffe et puis chauffer dans la noirceur, etc. Comment c'est venu ? Voilà, un petit rapide.
Je vais faire un assez bref pour ceux qui n'ont pas entendu ce que je disais tout à l'heure. Enfin bref, Tour de Chauffe, c'est adossé au festival Chauffer dans la noirceur. C'est venu d'un constat il y a 10 ans qu'il y avait peu de structures pour aider les artistes normands émergents qui avaient peu de soutien et qui étaient un peu perdus dans toute cette zone musicale qui ne savaient pas trop où aller chercher leur statut d'artiste. Et nous, on a essayé de les aider. Donc ça fait 10 ans. On a fêté les 10 ans juste avant en 2019, je crois. Et ben voilà, si on fait un constat, on a quelques artistes qui sont passés au national, comme Daisy, Manny Smell, je disais aussi la Galera Social Club. J'ai des artistes qui sont en passe de franchir cette étape, et on en était arrêté là tout à l'heure, notamment...
On parlait de Strange O'Clock.
Strange O'Clock, donc qui a un projet un peu... hors du commun, puisqu'il mêle blues et culture africaine.
Burkinabé, tu disais.
Voilà, toi tu voulais que je précise.
C'est super important, je trouve. Enfin, je me permets juste cette petite parenthèse, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance. C'est pas comme si on disait oui, c'est en Europe. Non, en Afrique, il y a des pays, et je tiens vraiment à préciser à chaque fois de quel pays les gens viennent, etc.
L'homme des pays intègres. Le pays des hommes intègres, pardon. Le Burkina.
D'accord.
Ça veut dire ça en fait.
Ouais.
Le pays des hommes intègres.
Ouais, c'est super important, je trouve.
Je pense que Céline et Christophe en font partie parce que c'est vraiment des gens très bien. Mais elle a vécu pas mal de temps au Burkina et elle en a gardé beaucoup de liens avec des musiciens burkinabés, et ce qui fait que on a beaucoup de sessions des fois. Là cet été c'était normalement ils se réunissent tout le temps un peu à la date de Jazz sous les pommiers à Coutances, et ils font des sessions avec des musiciens burkinabés. C'est plutôt sympa, et c'est facilité par une association qui est à côté de Vannes, dans le Morbihan, qui s'appelle Citala, et cette association fait venir beaucoup de musiciens burkinabés aussi. Et d'ailleurs, on a monté un projet en décembre l'année dernière avec Strange O'Clock et une dizaine de musiciens burkinabés. Et on a fait une résidence d'une semaine et on a fait un concert virtuel, hein, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, et c'était plutôt sympa. Voilà, il a fallu aussi travailler pendant les périodes de confinement, et ça c'est un des exemples que je peux vous donner. On a fait beaucoup de résidences cet hiver, avec Strange O'Clock, mais avec beaucoup d'autres groupes.
À noter que donc géographiquement, hein, dans cette belle région normande, vous êtes quand même situé dans le nord-ouest, hein, si je dis pas de bêtises, de la région normande.
On serait plutôt bien à l'ouest.
Ouais, c'est ça. Ouais, bien à l'ouest.
Bien à l'ouest, un peu Ouais, centre, ouais, centre.
Là, mais c'était pour vraiment apporter la différence parce qu'on a reçu Stéphane et Jean-Claude du Phare, ouais. Hein, qui eux se situent à Hérouville-Saint-Clair, ouais. Juste à côté de Caen. Là, tout à l'heure, on a reçu Stéphane Monnier du Calife aussi, qui est aussi un des acteurs. Mais c'est pour juste dire à nos auditrices et à nos auditeurs que vous n'étiez pas forcément justement lors de la création de toutes ces structures que vous avez fait. Peut-être que vous étiez un peu éloigné justement de tous ces centres culturels, de ces métropoles qui eux justement naturellement ont peut-être plus accès aussi bien au lieu, au niveau de la diffusion, au niveau des ressources pour les musiques actuelles.
Ça c'est clair, hein. on est un peu excentré géographiquement, mais on a toujours été partisans des réseaux, et ce qui fait que, alors pour les anciens, avant le Phare, avant le Hermann, il y avait Appel d'air, et j'étais administrateur d'Appel d'air une dizaine d'années, donc c'était le premier réseau, bas normand, hein, c'était encore à l'époque où il y avait deux Normandies, et ce qui fait qu'on on travaillait beaucoup, donc à l'époque avec le BBC, avec la Luciole, avec tout. Voilà, nous, c'est aussi une de nos forces. On avait aussi organisé un réseau de festivals pour communiquer. On a organisé un réseau aussi de festivals pour l'achat en matériel en commun, pour faire des économies d'échelle. Enfin, voilà.
Se mettre à plusieurs pour aller plus loin, quoi.
Complètement. Et c'est toujours notre philosophie. Nous, si des jeunes qui créent un événement culturel ou autre, qui viennent frapper à notre porte et qui nous demandent un peu d'aide, des conseils et choses. C'est quelque chose qu'on refuse jamais, ça, c'est clair.
Alors justement, par rapport au Phare, est-ce que on a reçu, donc je le répète, Stéphane et Jean-Claude, qui nous ont expliqué un petit peu toutes les procédures d'accompagnement de groupe pour effectivement les faire avancer dans la professionnalisation. Vous, c'est exactement la même chose ou il y a vraiment des différences?
Ouais, c'est pas un peu le, parce que la différence avec le Phare, c'est que ils vont apporter une aide plutôt ponctuelle. Donc surtout en dotation financière, où s'il y a un appel à projet, on répond à cet appel à projet, on est sélectionné ou pas. On est suivi pendant une année. Après, ça peut perdurer sur la communication, sur les sites. Mais voilà, nous, c'est tant que le projet est vivant et qu'il y a de la demande. Et puis, ça arrive aussi qu'il y ait une année sabbatique, hein, entre deux. Il faut... La production d'un spectacle, ça demande du temps. Ça, les gens ne travaillent pas tous à la même vitesse. Nous, c'est sur vraiment le long terme. Hein. Moi, mon objectif, par exemple, un projet que je travaille beaucoup en ce moment, c'est Trotsky Nautique et le dessinateur David Snoy. L'idée, c'est d'aller le plus loin possible avec lui. Parce que, bon, de toute façon, il a un potentiel artistique énorme, mais j'imagine pas tout d'un coup lui dire surtout que moi je pense pas qu'il y ait une structure nationale pour aider ce genre d'artistes qui sont un peu multicartes, qui viennent du DIY, du do it yourself, et moi l'amener déjà à accepter son statut d'artiste, ça a pas été facile, hein. faut pas croire, il y a des artistes un peu têtus. Moi je viens du DIY, je vis de peu, et non, moi je lui ai dit, attends, tu travailles comme un dingue, etc. Enfin, t'as le droit à un statut et...
C'est-à-dire qu'en 2021, encore, il y a des groupes qui se contentent de, on va dire, de vivre vraiment très chichement et qui, entre guillemets, ne veulent même pas parler de statut d'intermittence.
Alors, il y en a qui, effectivement, qui sont... qui veulent, mais il y en a qui n'ont pas leur statut parce qu'ils n'y arrivent pas, tout simplement. Après,
et vous aidez justement quand vous sentez qu'il y a un groupe qui aurait la possibilité justement de franchir cette étape, hein, de la non-professionnalisation à arriver à avoir ce statut d'intermittent qui est si prisé dans le monde du spectacle. C'est vous faites cette bascule-là?
Voilà, nous on est exactement ce point d'ancrage-là. Entre l'amateur et le professionnel, tout simplement. Et puis, nous, on essaie d'amener aussi dans les lieux. Alors, vous voyez, par exemple, on prend un bar. un bar, il fait venir un groupe, il fait 3000 euros de recettes, et puis à la sortie, il prend 100 balles là. Ben non, nous, c'est pas comme ça que ça marche. T'as créé de l'économie, il faut que. Voilà. Après, je dis, les bars, des fois, ils font ça pour animer aussi un territoire. Il n'y a pas que des gens qui cherchent à faire de l'argent. Et ben, je dis, ben voilà, il y a des dispositifs qui existent, comme le GIP Café Culture, qui permet aux bars et aux restaurants de payer l'artiste, de régler ses charges sociales, de simplement suivre la législation française. Hein,
Et justement, est-ce que vous pensez pas qu'au niveau de ces lieux de diffusion, de ces premiers lieux de diffusion, pour beaucoup de groupes hein, qui sont qui leur première scène généralement c'est des bars. Est-ce que vous trouvez justement qu'ils n'ont pas assez d'informations et qu'ils se retrouvent toujours un petit peu non pas paumés, mais sans savoir que justement il y a des dispositifs qui existent et qui pourraient faire en sorte que et déjà, ils rentrent dans la législation eux-mêmes, parce qu'ils se mettent quelque part en infraction, et aussi de permettre à des artistes d'avancer dans leur voie de professionnalisation.
Oui, oui. Effectivement, mais moi je dirais que toute cette partie informative, c'est plutôt le travail du phare. Nous, on est là pour justement être dans le dur et faire des contrats de travail, faire des choses. On fait le conseil aussi, mais nous, on est là pour... la partie utile, je dirais, c'est pas la plus sympa à faire, hein, mais c'est un vrai travail de fourmi et il faut être têtu.
J'aime bien le têtu, le ton sur lequel il a été dit. J'aimerais rebondir sur un terme qui vous a peut-être pas échappé et qui vous a peut-être un peu chatouillé l'oreille, c'est la question de la résidence. Alors, j'aimerais qu'on mette une définition là-dessus pour nos éditeurs et auditrices, parce que voilà, quand vous allez voir un concert dans une salle, dans un festival ou même dans un bar, comme on vient de l'évoquer à l'instant, c'est pas du tout cuit, ça se fait pas en claquant des doigts. Et voilà, les structures telles que Tour de Chauffe, ça propose de la résidence. Qu'est-ce que c'est que la résidence ?
Non. La résidence, il y en a de plusieurs sortes. Hein. Il y a des résidences techniques. Alors, rien que le mot, vous avez compris de quoi on parle. C'est souvent trouver le dispositif technique le plus approprié, faire ses derniers réglages. Il y a des résidences qui vont plus s'attacher à la scénographie. Donc, en gros, le processus de création, c'est je travaille déjà mon instrument. Après, je travaille, si je joue en groupe, en répétition. Donc, tout jusque-là, l'artiste, il n'est pas payé. Hein, vous comprenez, il est chez lui. Donc.
C'est justement pour ça que je voudrais qu'on mette ça en avant. Parce que, en fait, voilà, comme tu es en train de l'évoquer, il y a toutes ces phases avant de pratiquer l'instrument, ensuite faire les répétitions pour vraiment avoir les morceaux, de dire « Ah, on pourrait peut-être pas faire un pont ici ou faire une cassure dans tel morceau, machin. Et comment on pourrait enchaîner ça, etc. » Et puis, une fois qu'on a fini les répétitions, il va falloir monter le spectacle. Et monter le spectacle, ça veut dire trouver les bonnes lumières, le bon son, le bon enchaînement des morceaux, savoir faire les transitions entre la technique, etc. Enfin, je réponds un peu en même temps à la question.
Complètement.
Mais voilà, c'est ça que vous proposez. Au final, la résidence, c'est les artistes qui viennent chez vous.
Voilà, c'est ce qu'on appelle en gros la production d'un spectacle fini. Hein. Et donc, la dernière étape, oui, c'est la résidence. On va permettre... dans des conditions techniques le plus proche de ce que va de la scène, à des artistes de préparer leur spectacle au niveau des lumières, au niveau du son et au niveau de la scénographie, du déplacement sur scène. Voilà. Des fois, on peut aussi être amené, quand vraiment un groupe pêche, à lui faire faire des cours de théâtre, un peu pour l'amener à être beaucoup plus naturel sur scène et... Voilà, et après, ce que vous voyez quand vous allez à un festival ou à un spectacle ou même dans un bar, c'est tout ce qui résulte de ce travail-là. Et l'artiste n'a pas été payé. La résidence, nous, on essaie d'aller chercher des financements.
Oui, il y a des résidences accompagnatrices.
Ouais, ouais, donc ça, c'est aussi une des choses. Nous, dans notre structure, on a des minimums garanties qui sont au-delà de... nous, notre grille salariale, c'est le Syndéac. Je ne sais pas la radio ce que c'est, mais nous, voilà. Et si on considère un artiste régional qui est en début, c'est un artiste, on va dire, artiste de complément. Nous, on est bien au-dessus de cette grille-là parce que, voilà, on estime qu'il y a toute une partie du travail qui n'a pas été payée et voilà, c'est un peu une manière de rattraper. Et donc, le système intermittent, on emploie souvent le mot intermittent et de manière un peu, je dirais, galvaudée des fois, c'est un statut de chômeur, finalement. On est bien d'accord, les jours chômés ne sont payés par Pôle emploi comme un travailleur lambda. Sauf que lui, l'artiste, il va pas rester dans son canapé à regarder la télévision, il va aller dans son studio de répétition, il va travailler des heures et des heures. Et c'est pour ça qu'il y a voilà, l'intermittence. Mmh. Et en gros, c'est l'effort de la société générale, parce que c'est nous qui cotisons pour remplir les caisses de Pôle emploi, pour justement élever notre niveau de production, ouais, de production artistique. Mmh. Et moi, je peux vous dire que il y a beaucoup de pays qui nous envient ce système-là. Et,
ah oui, oui,
et des fois, on se rend pas compte à quel point nous on a une créativité énorme. Et je peux vous dire que moi, j'ai beaucoup d'amis à l'étranger, en Angleterre, etc., qui nous envient tous ce système. Hein, parce qu'en Angleterre, c'est marche ou crève. Hein, ton spectacle, il fonctionne, tu gagnes de l'argent, il ne fonctionne pas. Et puis en plus, alors, je ne vous dis même pas les conditions.
Bah ouais. Oui, oui, mais c'est pour ça que c'est, super, c'est vraiment important de mettre le doigt dessus. Il y a tellement de personnes qui ne comprennent pas ce que c'est que l'intermittence. Déjà, le fait de dire, voilà, tu es chômeur, donc on associe ça très majoritairement, très souvent, même n'importe qui, hein, on est d'accord. Du fainéantisme pour la plupart du temps et comme tu viens de le souligner à l'instant, voilà, c'est ça, c'est les jours de chômage, c'est pas rien faire, voilà, c'est pratiquer dans son instrument, c'est travailler, c'est chercher des idées pour le spectacle, etc. Et tous ces jours là en fait on récupère ça, ce qu'on appelle le fameux guzo, c'est plus ou moins j'essaie de vulgariser un petit peu le truc pour qu'on comprenne bien, mais en gros, voilà, sur l'ensemble du travail qui a été fait, une fois que le spectacle est produit et fait, eh bien, il y a un forfait qui est calculé en fonction du nombre d'heures de travail qui a été fait en amont pour préparer le spectacle, qui est redistribué aux artistes.
Voilà, schématiquement, ouais.
et c'est vachement bien.
Moi, je trouve que c'est un système. Alors, c'est vrai qu'on peut être un peu jaloux parce que ils ont un projet professionnel qui est super riche et artistique, etc. Mais moi, si je veux être artiste, j'ai le droit aussi. Hein.
Ah ben, mais chacun, tout le monde. C'est voilà, ça l'avantage.
Après, on a un don ou pas. Hein. Moi, je pense pas qu'il y ait. Il y a des gens effectivement qui ont des dons, mais moi, je suis musicien à la base et la pratique musicale. C'est aussi beaucoup d'heures de travail. Hein. Moi, je suis bassiste à l'origine. Quand mon guitariste m'amène un nouveau morceau, c'est des heures et des heures qui ne sont pas forcément super agréables hein, à l'avoir dans les mains. Je peux vous dire que c'est quand même du travail. Voilà.
Ah oui, oui, ça en est de toute façon, ouais, bien sûr. On va faire un petit point aussi sur ce qui se passe du côté de Chauffer dans la noirceur, puisque j'ai l'instigateur de ce festival. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale histoire de digérer un petit peu l'ensemble de nos propos, parce que voilà, comme on aime à le dire, on va au fond des choses, on va en creuse. Mais tout ça, c'est pour vous expliquer un petit peu justement au sein de ce festival de l'excellence normande, pourquoi il y a un stand de musique actuelle avec le phare, avec Tour de Chauffe, avec le Calife, avec tous ces acteurs qui sont là pour justement promouvoir les musiques actuelles, les artistes normands. On disait tout à l'heure avec le phare, plus de 460 références, plus de je sais pas combien de milliers d'artistes, ne serait-ce qu'en Normandie, rien qu'en Normandie, imaginez dans toutes les autres régions et en France le potentiel artistique qu'on peut avoir. Donc voilà, les les aboutissants, qui fait quoi, comment on les met en avant, etc. C'est aussi à ça que ça sert, ces émissions-là. On espère que vous appréciez la démarche. On va faire un tour, donc, pause musicale avec des artistes, encore une fois, rouennais. Rouen est à l'honneur ce matin.
Ouais, on est à Rouen.
Et ouais, on est à Rouen. Donc, Notaireans in the Bung, est-ce que ça te dit quelque chose?
Ça m'a traversé, je crois, la tête il y a quelques semaines, ce nom, oui.
Ouais, ouais, Notaireans in the Bung, on pourra peut-être en reparler aussi avec notre ami de la Sonothèque.
Raphaël, de la Sonothèque.
J'étais en contact avec Notaireans in the Bung.
Ouais.
Peut-être, c'est pas impossible qu'on les voit chez nous un de ces jours.
Ah.
En plus, eux, ils ont une demande qui n'est pas forcément telle que je l'ai décrite. L'intermittence, c'est des gens qui sont déjà bien insérés dans leur métier, mais c'est un vrai projet de qualité, ça je peux vous le dire.
Ouais, ça envoie du bois, c'est propre, c'est super bien produit, voilà, ils sont bons, n'ayons pas peur des mots. Notaireans in the Bung avec le titre Another Kind of Violence, c'est tout de suite sur Radar, sur HDR 99.1, et puis voilà, dans vos oreilles, tout simplement.
Losing all control, become somewhere else for the old. But there is gonna be suffering, I'm afraid. Yeah, this is gonna destroy me again. I get up many times, but how many times will I fall?
le Fesneau. C'est sur Radar et sur HDR.
HDR 99.1.
Dans vos oreilles, Zébobi, c'était No Terror in the Bang avec le titre Another Kind of Violence. Vous allez en entendre parler de ce groupe, je peux vous le dire, parce que chez Radar, eh ben, on les aime bien, on les salue. Ils sont rouennais et on est toujours en compagnie de HDR au sein de du studio mobile HDR 99.1.
www.radiohdr.net.
Faut-il le rappeler, radar.ransor.com. Voilà, on fait toute notre promo à gogo avec Nicolas, c'est un plaisir. On s'est rencontrés vraiment à l'arrache ce matin
à 9h
et voilà, et puis bah ça enchaîne comme il faut, on est
et
en compagnie,
c'est un roman d'amitié qui commence.
Ah ouais. Fais-moi rêver. On est avec Pierre Dereder de Chauffer dans la noirceur et de l'association Tour de Chauffe, c'est celui-là le casse-counet. Voilà, on vient de parler de Tour de Chauffe et de toutes les implications que ça peut comporter, et puis Tour de Chauffe et surtout Pierre Dereder, c'est aussi Chauffer dans la noirceur, le festival que vous connaissez tous mais qui a eu tout son parcours aussi, et s'il est connu c'est qu'il y a bien une raison, il y a eu du travail derrière. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu, ça fait combien d'années, ça fait combien de travail, ça fait combien de groupes, est-ce qu'on peut en parler en chiffres?
Alors en chiffres, c'est tellement il y en a, ça va être compliqué, mais voilà, on va fêter les 30 ans l'année prochaine. C'est le week-end, alors j'ai pas le calendrier dans la tête, mais c'est le week-end le plus proche du 14 juillet, et je peux vous dire que ça va être d'habitude c'est la grosse fiesta. Là, ça va être
Depuis 30 ans, oui, j'imagine.
Ouais, voilà, ça va être la méga grosse fiesta.
La méga grosse fête. Alors, il y a eu des bruits de couloir ce matin. On a commencé à en parler hors antenne, évidemment, parce qu'on est tous sur le même stand au Fesneau avec toutes les personnes qu'on reçoit au sein du studio mobile. Et on discutait un petit peu avec la Sonothèque, avec Chauffé, avec etc. Enfin, tous les gens qui sont là. Et on se disait, mais l'année prochaine, ce serait bien qu'on emmène le studio mobile là-bas. Et puis, déjà qu'on fasse la grosse tawa avec vous. Puis après, on fait le tour des festivals tout l'été avec tout le monde. Et ce serait chouette, quoi.
Ouais, c'est génial parce que nous, on est une grande famille. Hein, souvent, c'est ce que les gens nous disent, c'est le côté familial. Et puis, dès qu'il y a des gens qui sont déjà venus ou des nouveaux, ils font partie automatiquement de la famille. Et voilà. Et j'espère que les festivaliers ont aussi ce sentiment-là, qui quand ils achètent un billet pour chauffer, que c'est pas uniquement aller voir un spectacle, c'est aussi faire partie d'une grande famille.
Vas-y, c'est pas grave.
Alors, justement, Chauffer dans l'annonceur, pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est un festival de musique qui se déroule, je crois bien, sur trois jours, à peu près.
Ouais, 3-4 jours, ça dépend des années et en fonction où est positionné le 14 juillet.
Voilà, c'est ça. Ça se situe à Montmartin-sur-Mer.
C'est un petit village qui est entre Coutances et Granville.
Voilà, pour situer.
Je vais même pas vous décrire le truc parce que je peux vous dire que quand vous arrivez, il y a une côte là.
Ouais.
Et quand vous arrivez en haut.
Ouais, on voit le site du festival devant nos yeux.
On voit la mer, on voit Chausey.
Et voilà.
Moi, j'appelle ça un peu comme New York, quand on découvre New York. Enfin, Manhattan pour la première fois, c'est The Big Apple.
Ouais, la Big Apple
normande.
Voilà.
Parce que c'est à signifier, c'est aussi, donc justement, il y a certainement cette volonté-là, j'imagine, au départ, au-delà d'animer un territoire qui peut-être à l'origine n'était pas pourvu de beaucoup de lieux de diffusion, mais il y a eu aussi cette possibilité d'offrir aux spectateurs un lieu unique, en fait, quoi. Un lieu entre la campagne, la plage, et surtout aussi dans une volonté de pas trop grossir, pas devenir une usine à gaz au niveau du festival avec X groupes qui s'enchaînent à un rythme effréné.
Oui, tu as raison d'appuyer sur cet aspect-là. On veut rester un festival à taille humaine et surtout notre site, la plage de Montmartin, c'est notre identité. C'est ce territoire-là, c'est notre quotidien et on n'en changera pas pour rien au monde. C'est vrai qu'entre nous, on rigole parce que on dit, je sais pas, vous faites un festival au centre de la France, vous pouvez communiquer d'une manière circulaire. Et nous, bah, quand on veut communiquer d'une manière circulaire, et bah, on communique avec les poissons.
Vous avez les pieds dans l'eau. Ouais.
Donc ça, c'est pour rigoler, je dis ça. Ouais. Ouais, effectivement, le lieu est unique et on a toujours été sensible à sa protection. Et c'est pour ça que bon, maintenant, le développement durable, enfin, je vais pas vous sortir toute la liste de noms, mais nous, ça d'entrée, c'est même pas, c'est nous quoi. Nous, on essaie de pas salir quelque chose de propre. On essaie, on a même pas ces mots-là à voir. Bon ben, voilà, et on a toujours essayé au fil du temps d'améliorer nos façons de faire pour laisser une empreinte minimum sur un site magnifique. Et allez voir, là, on est à... J'y suis passé avant-hier, je crois. Je suis passé à côté du festival. La nature a repris ses droits. En plus, au début, on avait des problèmes avec la période qu'on avait choisie parce que c'était une période de nidification d'oiseaux. Donc, on avait déplacé les dates du festival. Vous voyez, on va dans les détails un peu... de manière assez précise quoi. Et donc les toilettes sèches, tout ça, on a été les premiers sur les verres, les éco-cups, en plus on a travaillé sur de l'environnemental et du social, puisque c'est les ZAD qui nettoient nos verres, qui s'occupent du parc, qui les remet à jour quand il en manque, etc. Et vraiment c'est un circuit vertueux. On est notre truc, c'est circuit vertueux, des fois un peu trop d'ailleurs.
Alors on va voir si on est dans la ligne toujours vertueuse au niveau de la programmation. Comment ça se passe, parce que on sait que pour la plupart des festivals et puis même pour la plupart des SMAC aussi, il y a toujours des tourneurs derrière qui mettent en place les artistes, qui vont, alors tu vas aller à Mont-de-Marsan ici, après tu vas aller à Rouen, après tu vas aller à Marseille, après tu vas remonter ici, et qui font le tour des SMAC, et puis qui font le tour aussi de tous les festivals l'été, et on retrouve quasiment les mêmes affiches un petit peu partout en France. Comment ça marche chez vous? Est-ce que vous êtes approché par les tourneurs, ou est-ce que c'est nos groupes d'abord chez Tour de Chauffe, ou est-ce que, voilà. On est où en termes de prog?
Alors, en termes de prog, alors, comment je pourrais vous faire une petite historique de comment on a fonctionné au début. Moi, je viens de la musique, j'étais musicien. L'idée de départ, c'était pas du tout de faire un festival qui dure 30 ans. C'était de faire une fête entre copains musiciens et, en l'occurrence, un groupe québécois avec qui on avait sympathisé. On a réuni une équipe de copains pour organiser un événement one shot. Et je m'aperçois que 30 ans après, il existe encore. C'est plutôt drôle.
Ah, c'est un gros one shot bien long.
Ouais. Et du coup, alors maintenant, évidemment, nos pratiques où on faisait un peu de copinade et on s'amusait bien. Hein. Je peux vous dire qu'on a passé des belles années à bien rigoler.
C'est conjugué au passé, hein, vos horaires. Vous aurez remarqué.
Ouais.
On s'amuse plus du tout maintenant.
C'est vrai. Mais c'est surtout au niveau du concept, parce que tu me posais la question de, ouais, de la programmation. On avait développé des réseaux à l'étranger d'amis, mm-hmm, qui avaient des qualités artistiques indéniables. Mais parce qu'on était musicien et quand on rencontrait, on allait à un concert, on allait facilement voir les gens. Tiens, tu veux venir chez nous? On liait amitié et finalement, ça devenait une histoire qui durait longtemps. Mais même encore, moi, j'ai encore des contacts avec tous ces musiciens-là. On s'est aperçu après que pour mettre en valeur ces artistes qui n'étaient pas forcément connus, une petite tête d'affiche ici et là, ça améliore un peu les choses et puis ça a amené beaucoup de public parce que produire des spectacles, c'est bien, mais quand il y a un peu de monde pour les regarder, c'est bien. Pas trop de monde, hein, je vous dis. Nous, on veut que nos spectacles restent à taille humaine. Et donc, à partir de là, on a continué un peu sur le format, tête d'affiche, voilà. Et ensuite, on est pas. Les gens qui s'occupaient de la programmation ont plutôt. N'étaient pas du tout musiciens, ils avaient un peu oublié ce concept. Mais par contre, ils tenaient beaucoup à ne pas faire la même programmation que ce que tu disais tout à l'heure, tout ce qui tombe dans les SMAC, etc. Et celui qui vient souvent à chauffer, il remarquera qu'on est quasiment les derniers à dévoiler notre prog. Ça a une raison toute simple, c'est pour essayer de faire une offre culturelle qui a pas à côté, qui a pas à 100 km. Je sais pas, par exemple, c'est un peu idiot de voir toujours les mêmes noms circuler. L'hiver, vous les avez dans les SMAC l'hiver, et puis l'été, vous les avez dans le festival. Mmh. C'est
ouais,
cool.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
C'est cool.
Mais c'est là aussi où vous sortez un petit peu du lot en termes de festival, le fait de proposer une programmation un peu plus éclectique et un peu plus différente, quoi.
C'est un vrai travail de. Vous aussi, vous faites de la programmation à la radio, vous allez chercher des choses pour aussi sortir des sentiers battus. Ben nous, c'est ça. Tout l'hiver, on est. Moi, je ne fais pas partie de la commission programmation, mais ils sont une dizaine à travailler, écouter, aller chercher des contacts. Alors effectivement, on a quand même quelques têtes d'affiche, mais on essaie toujours d'avoir un peu des exclusivités. Par exemple, à Vidan, cet été, il faisait que 3 dates en France, donc c'était intéressant de l'avoir dans l'Ouest. Mais sur les autres, les artistes, en général, il y a un gros travail derrière. Il y a un gros travail.
Quand ça fait 30 ans qu'on existe et qu'on dit, voilà, nous, notre festival, on veut vraiment qu'il reste à taille humaine. Comment on le préserve de la taille humaine? Parce que, enfin, 30 ans d'existence, ça tombe pas dans la grille d'un sourd. On connaît tous Chauffer dans la noirceur dans la région. Tout le monde se dit au moins une année, cette année, j'ai envie d'aller à Chauffer, quoi. Il y a forcément un moment dans notre vie où on se dit, tiens, j'irais bien à Chauffer cette année, l'affiche est sympa ou je sais pas quoi, enfin peu importe les raisons. Comment on fait pour garder la taille humaine de ce festival malgré son succès?
Le lieu nous empêche d'avoir la grosse tête, parce que de toute façon, en termes d'infrastructure, on pourrait se creuser un peu la tête pour...
Oui, mais vous pourriez délocaliser dans des communes avoisinantes.
Ah ouais, non.
Ah là. Oh non, du travail en plus.
Travail.
Tu perds aussi la plage.
Moi, je sais pas. Grossir les. Le projet, c'est le festival avec tout ce qu'il y a autour, hein, parce que. En journée, il y a des animations aussi sublimes. Il y a un village associatif, vous pourrez rencontrer plein d'associations. Il y a des tables rondes, on parle du devenir de la société. Enfin, je veux dire, c'est pas que la musique, hein. Vous pouvez aussi venir chauffer un peu vos neurones à chauffer. Puis, si vous voulez chauffer votre corps, vous allez sur la plage et puis vous profitez du soleil, une petite baignade de temps en temps, et c'est super cool. Mais voilà. Alors, faire des choses à côté. On a fait des fois, on envoie une fanfare sur le marché, on fait des petites sorties comme ça, mais le vrai festival, il est là. Après, je sais pas, il y a les 30 ans qui arrivent, on va déborder de projets, hein, je vous le dis, là ça commence à... Et c'est vrai que chacun a envie d'y aller de son idée et truc. Moi, je suis, on va dire, le papa du festival quelque part. Donc, j'ai un peu quelque chose à dire. J'aimerais bien faire un petit truc un peu qui sort de l'ordinaire, qui n'a jamais été fait.
C'est-à-dire que tu vas choisir un groupe pour la programmation des 30 ans?
Ah, j'aimerais.
Le petit cadeau du chef?
Ça pourrait être ça, mais ça, c'est petit, ça.
Il a d'autres ambitions, ouais. Attends. Ouais.
Du coup, non, cette année, par exemple,
mais c'est la surprise, en gros.
J'avais un lieu et j'ai fait quelques showcases qui étaient plutôt destinés à des artistes vraiment émergents, hein, en tout début, et que les showcases s'adressaient à plutôt des professionnels. Là, j'aimerais bien qu'on me laisse un peu plus d'espace et... aller un peu plus vers le public. Moi, j'ai envie de... Les professionnels, j'ai envie de leur montrer aussi ce qu'on envisage pour après dans Tour de Chauffe, mais j'ai aussi envie d'aller les montrer à un vrai public, quoi. Alors, peut-être que ça passera par un lieu que je vais inventer, je sais pas où, dans la bergerie qui est juste à côté, ou je sais pas, je sais pas.
En tout cas, ce qui est plaisant à voir, Pierre de Reder, c'est cette continuité dans cette motivation, dans cette envie toujours présente de faire des choses, d'avancer dans les musiques actuelles, dans la proposition de groupe, qui soit dans le développement des artistes de la région, voilà, d'être présent et d'être toujours aussi motivé. Où on va la chercher, cette énergie-là?
C'est
la passion.
C'est la passion.
C'est l'alcool.
On a du très bon cidre, mais faut en boire beaucoup.
Ah oui, là, bah, pas fini.
Mais d'ailleurs, Damien doit être là, notre producteur de cidre. Mais moi, je dirais, j'aime voir les gens heureux. Je crois que c'est ça. C'est mon principal.
C'est la leitmotiv, c'est de voir les gens le sourire
ouais,
sur la face
alors,
des gens.
Je sais pas, effectivement, je vous ai dit, je faisais de la musique, c'est mon vecteur, mais j'aurais pu être fabricant de fromage. Je crois que j'aurais aimé voir les gens heureux.
Ça aurait rendu
fromage,
des gens heureux aussi. Hein, ouais,
donner du bonheur, c'est une belle profession, ça, quand même.
Oui, oui, oui. Ouais. Et moi, je pense que pour faire ce métier-là, faut pas espérer
beaucoup d'argent, quoi.
Ouais, il y en a. Bon, je vais pas dénoncer personne.
Ah si, on veut des noms. Ah vas-y. Ah. Vous allez trop loin, monsieur.
Non, mais alors justement, je vais en profiter pour faire une sorte de 30 ans, vous voyez, il y a des.
C'est quand eh ben même... vas-y, profite. T'as le micro. C'est ouvert.
Je voulais dire que. On est parti donc en 93, hein, c'était le début de l'aventure. Le secteur des musiques actuelles, on était des oufs. Hein, on s'appelait chauffer dans la noirceur. Dans ma campagne, ils nous appelaient merder dans la blancheur, quoi. Par exemple, vous voyez où on en était. Maintenant, c'est devenu les musiques actuelles, c'est devenu une vraie institution. Les facs font de, il y a des cours d'histoire sur les musiques actuelles. Je veux dire, c'est énorme, quoi.
Alors justement, je rebondis vite fait, je fais une petite parenthèse. On s'amuse à demander un petit peu à chaque intervenant ici sa définition des musiques actuelles. Alors on a eu la vraie, presque le maître Capello avec Jean-Claude Dufard qui nous a vraiment donné une définition propre, pure et dure. Quelle serait la tienne?
Alors moi, j'enfile le costume sans vraiment... voilà, moi, la musique, c'est quelque chose de beaucoup plus simple qu'un nom. Si ça me donne envie de bouger le petit doigt, si ça me procure de l'émotion, que ça soit actuel ou pas, je m'en fous.
Voilà, c'est de la musique de toute façon, actuelle ou pas. Voilà, c'est une très bonne définition.
Alors justement, tu parlais des 30 ans hein, de cette année du festival Chauffé dans la noirceur. C'est toi, en tant qu'acteur justement culturel et musical de cette région, comment t'as vu justement l'évolution? Tu parlais justement du fait que les musiques actuelles depuis 30 ans ont vraiment évolué. On ne peut pas dire institutionnalisé, mais organisé, entre guillemets. Hein, et c'est devenu vraiment une vraie branche professionnelle, comme tu le disais, même avec des études, notamment à la faculté, qui sont vraiment dédiées pour aller travailler dans ces organismes-là. Voilà, j'imagine quand même que c'est quelque chose que tu as vu évoluer d'une manière positive pour renforcer aussi tous ces acteurs et toutes ces personnes qui sont investies dans le champ de la musique, qui au départ c'était de la passion, du loisir, beaucoup de bénévolat, puis ils ont bien été heureux à un moment quand ils ont pu en faire un métier.
Il y a le bon et il y a l'effet pervers. Je dirais que des fois alors là, on parle de musique actuelle. Quand il y a une certaine forme de reconnaissance, il y a toute une forme d'institutionnalisation. Et je dirais que des fois, on voit apparaître des fonctionnaires j'appellerais des fonctionnaires du rock'n'roll, quoi. Et c'est les deux mots qui vont pas ensemble, quoi. Fonctionnaire et rock'n'roll, mais ça existe, quoi. Des gens qui vont au bureau comme ils iraient
à la banque
ou, et qui sont des machines, qui programment, comme vous disiez tout à l'heure, ils regardent le catalogue du tourneur et, ah tiens, si je lui fais ça, il va me permettre de faire ça cet été, et puis tout, tu vois la petite combine
et puis il y a ce petit côté produit. Alors, si tu me mets celui-là, je peux avoir un rabais sur l'autre en dessous qui est moins bon.
Ce petit côté, ça c'est l'effet pervers. Par contre, là on est au Fesneau, la région, il y a depuis quelques années quand même une vraie prise en compte du secteur et ça fait vraiment plaisir quoi. Ça veut dire que ce qu'on a travaillé il y a 30 ans, ça a servi à quelque chose et j'espère que l'outil qui s'est progressivement mis en place, il va être utilisé par les générations qui vont venir. Moi j'ai rencontré plein de jeunes ce matin qui sont dans la profession et qui ont des gros cœurs comme moi, qui ont envie de faire des belles choses aussi comme moi. Et ben, j'espère que ce travail-là, justement, de leur mettre des outils qui fonctionnent bien et qui vont pouvoir aller vers la création encore mieux, plus confortable, avec des vrais statuts et tout ça pour le plaisir de tous.
Et du coup, justement, qu'elle chauffait dans la noirceur, comment ça a été, ou comment est-ce que c'est, ou comment est-ce que ce n'est pas accompagné par la région ?
Ah si, nous on est bien voilà, moi dans Tour de Chauffe, je travaille en super bonne intelligence avec plusieurs services. Au niveau du festival, c'est pareil, sur des thématiques, développement durable, on est bien raccord, ils comprennent bien nos projets. De toute façon, vous avez vu, quand je parle, et Isia, il est comme moi, on est des gens sincères, on va pas chercher la sub pour se faire des salaires de ministre, hein. Il n'y a pas de ça chez nous, hein. On est tous à ce niveau-là, vous inquiétez pas, hein. Il y a un bon rapport investissement sur nos emplois. On est bien suivi au niveau de la région, un peu moins au niveau de l'État, en l'occurrence des DRAC, parce que bon, c'est plutôt sur appel à projet, donc il faut toujours rentrer un peu dans des cases, mais bon, ça c'est le jeu, mais faut savoir qu'il y a 30 ans, c'était encore plus difficile.
J'imagine bien.
Eh bien, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Ça fait quasiment une heure que nous sommes ensemble.
Comme d'habitude.
Mais voilà, toute bonne chose à une fois. On pourrait encore discuter pendant des heures avec l'ensemble de nos intervenants ici dans le studio mobile à Ransort. Pierre de Reder, donc de Tour de Chauffe et de Chauffer dans la noirceur. On pourrait même aller jusqu'à évoquer le marché, l'industrie du disque avec... tout ce que ça comporte en dématérialisation, en pollution, en plein de choses. Enfin, les sujets sont tellement vastes. Restez avec nous à l'écoute du Fesneau, les émissions spéciales autour du Festival de l'Excellence Normande sur HDR 99.1 en compagnie de Nicolas qui nous fait le plaisir de nous rejoindre au sein de ce studio mobile. Il commence sérieusement à se faire faim en ce qui nous concerne. Il est 15h20 à la pendule de Radar et dans vos pendules chez vous. Si vous écoutez les podcasts, il est l'heure qu'il est chez vous. Mais en tout cas, chez nous, on a faim. On va vous laisser avec un peu de programme musical. On va vous laisser avec les artistes de la région qui sont diffusés sur Radar et puis le programme de HDR qui continue sa route. On se retrouve un petit peu plus tard. Normalement, à 16h, on devrait avoir la Sonothèque Normandie qui doit nous rejoindre. Le temps de travailler, j'allais dire. Non, le temps de manger un petit peu, de nous restaurer. Et puis, on vous revient juste après. On vous laisse avec nos différents programmes. Salut. Et voilà, on vous souhaite bien la bonne après-midi, en tout cas, à leur écoute.
Le Fesneau. C'est sur Radar et sur HDR.
HDR 99.1.